One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde, au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Voilà ce qui se passe quand on se trompe d'export. Au moment d'envoyer les fichiers. Ce n'est évidemment pas Court-Métrange et on n'est pas à Rennes, mais voilà.
Ça, c'est du talent.
Il faut que je renomme les fichiers quand je rentre à la maison.
Ça nous rappelle le premier enregistrement qu'on avait fait où tu avais oublié d'appuyer sur REC.
Oui, mais j'ai progressé depuis.
Oui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vais retenter mon numéro de bide intersidéral pour commencer, mais on ne sait jamais, ça peut marcher. All is beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi... Ils sont bien, ils sont beaux.
Ils sont bravo. Bien, ils sont bien.
Salut sont les vivants. Amis, bienvenue à cet épisode enregistré en public à la ferme du Buisson à Noisiel dans le cadre de la première édition du festival Théâtre et Cinéma. Est-ce que tout le monde va bien? Putain, vous êtes chaud. Est-ce que on est chaud de ce côté de la table aussi?
Oui. Oui.
Vous êtes mou un peu là.
Oui. On n'est que 5, si je puis me permettre.
Je vois à la fois des mines réjouies et des mines sombres. Que se passe-t-il? Dites-moi, il y a quelque chose, il y a un paix coincé quelque part.
Tu parles de Simon là?
Ouais, quand je parle de paix, je parle souvent
oui,
de Simon.
Voilà. Ouais. Je préfère préciser quand même.
Oui, et puis je suis souvent coincé. Mais non, au contraire, moi je suis très très excité parce qu'on va parler d'un film que je n'avais pas revu depuis sa sortie, qui m'avait laissé une impression que je qualifierais de bigarrée, de mitigée. Et je l'ai revu hier soir.
Et tu t'arrêtes là. Sophie, comment ça va?
Bah écoute, ça va super, je suis vraiment ravie d'être ici et moi j'étais pas allée à Rennes avec vous donc c'est un peu genre mon premier enregistrement vraiment public à part évidemment l'Hurlequin
qu'on va faire le 6 mai prochain.
Donc je suis trop contente d'être ici.
Alexis?
Mais je suis très content, ça a commencé par une gaffe technique. Normalement, ça devrait bien se passer.
Il y en aura peut-être d'autres, restez accrochés. Et Arthur, comment ça va Arthur?
Parfaitement bien.
Super, bon.
Super.
Eh ben, quelle ambiance, dites donc. Alors, la question est la suivante. Se pourrait-il que cette ambiance sympathique, détendue, que vous voyez, cette douce équanimité, et puis... Vous entendez souvent les épisodes du mardi, en général, ce sont des films qu'on aime bien, tout le monde est d'accord, tout le monde est content, on ne se fâche pas. Se pourrait-il que l'unité de ce groupe vole en éclats aujourd'hui devant vos yeux? C'est une possibilité à ne pas négliger. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque nous avons réfléchi à un film qui illustre donc le thème du festival, la jonction entre théâtre et cinéma, nous avons eu plusieurs idées. Il a été question de Opening Night de Cazavetz, du Paltoquet de Michel Deville, de All That Jazz de Bob Fosse, mais... Le démon nous a orientés vers le film de la discorde, le film de la division, le film auquel cette équipe ne survivra peut-être pas ce soir.
Bah, pas les plus mauvais, quoi, en tout cas.
Vous assistez, mesdames et messieurs, peut-être au tout dernier épisode de Réaliser son trucage. Nous sommes venus groupés, nous partirons séparés, isolés, meurtris, déchirés. J'en fais peut-être un peu... Oh, quoi
oui,
que...
un petit peu, quand même.
Un petit peu, mais... Alors, je vous propose peut-être un safe word. Si à un moment, ça dérape trop, je propose Yukun Kun.
Yukun-kun.
Le Yukun-kun.
Qu'est-ce que c'est, le Yukun-kun?
Oh putain, on est sur du pas vu pas pris déjà. Louis de Funès, le corneau. Yukun-kun, le diamant.
Ah oui.
Le Yukun-kun.
Oui, mais enfin, voilà. Attends, il faut que je me souvienne de ça.
Sérieux. Je ne parle pas de mon âge, on ne demande pas son âge aux vieilles dames.
Il était commissaire au plan à l'époque.
et tout ça, toute cette discorde à cause d'un réalisateur mexicain au nom de Fromage Basque et d'un ex-super-héros. Extrait. Voilà un extrait de Birdman d'Alejandro González Iñárritu avec Michael Keaton, Naomi Watts, Emma Stone, Edward Norton et Zach Galifianakis. Qui l'a vu dans l'assistance? une grande majorité. Ouais, bravo. Ah, vous avez fait vos devoirs, c'est bien. On va pouvoir être un peu précis pour une fois.
Désolé.
Le film suit donc, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, Regan Thompson, acteur vieillissant rendu célèbre pour avoir incarné le rôle du super-héros Birdman au cinéma 25 ans plus tôt et qui veut relancer sa carrière en adaptant une pièce qu'on va dire un peu plus intello de Raymond Carver, What We Talk About When We Talk About Love, dans un célèbre théâtre new-yorkais sur Broadway. Considéré comme un pur produit du divertissement hollywoodien, Regan Thompson va-t-il réussir à convaincre dans un registre plus intellectuel avec dans son environnement sa fille ex-junkie, un comédien issu du sérail théâtral qui sabote chaque répétition et une relation avec une coactrice bien plus jeune qui bat de l'aile. Il faut préciser, comme vous l'avez vu, que Birdman a une particularité importante. Le film est un long plan séquence truqué sur quasiment toute la durée du métrage. C'est même le plus long plan séquence truqué de l'histoire du cinéma. Ceci étant dit, on va commencer par un petit mot pacifique sur Iñárritu, qui jusqu'à ce film, Sophie, ne s'était pas particulièrement fait connaître pour des films qui débordent de joie, d'humour et de joie de vivre.
Bah, c'est un peu la particularité d'Iñárritu. Donc Iñárritu, il commence vraiment sa carrière. De toute manière, son premier long métrage, c'est Amores Perros, qu'il sort en 2000 et qui est, on va dire, un premier pas qui se fait beaucoup remarquer par la critique. Il est dans une section parallèle à Cannes et il fait partie d'un trio de réalisateurs mexicains. Vous les connaissez sans doute. Il y en a un, c'est Guillermo del Toro, et l'autre, c'est Alfonso Cuarón. D'ailleurs, si vous cherchez sur YouTube, il y a une longue discussion des trois qui est d'ailleurs modérée par Netflix. Si je dis pas de bêtises.
C'est que les trois sont partis chez Netflix.
Exactement. Et pour moi, par rapport aux autres, ce qui qualifie le cinéma d'Iñárritu, c'est que c'est un cinéma extrêmement pessimiste. C'est normalement la noirceur humaine à son paroxysme. Pour moi, d'ailleurs, le point culminant de ça, c'est son film Beautiful avec Javier Bardem, qui l'a aussi amené à des grands prix de performance. Il faut savoir que Iñárritu, c'est un réalisateur qui a été très, très, très primé. Il est tellement primé que ça y est, c'est lui qui donne enfin son Oscar à Leonardo DiCaprio dans The Revenant. Et c'est quelqu'un qui a une certaine aura, j'ai envie de dire, dans le cinéma mondial. Et il est très reconnu et respecté par les institutions américaines. Amores Perros et son film en langue espagnole, il en a fait un autre, donc du coup Beautiful, mais il est allé très rapidement dans le pan hollywoodien américain avec toujours cette espèce d'empreinte très noire et très triste. Et pour moi, Birdman, c'est un petit peu sans doute l'espèce d'éclair de joie, j'ai envie de dire, presque un peu de lumière dans son cinéma qui est vraiment dark, sombre et déprimant. Encore une fois, si vous ne connaissez pas les pitchs de ses autres films, prenez un Lexomil quand vous les lisez.
En général, c'est quelqu'un qui va mal et qui, à la fin, est mort.
C'est souvent ça, hein, parce que par
et
exemple,
parfois c'est plusieurs personnes qui vont mal et à la fin sont mortes.
Oui, parce que pareil, en fait, un truc qui va être super intéressant quand on va parler de Birdman, c'est que Iñárritu, il aime bien des effets de style qui sont propres au cinéma. C'est vraiment quelqu'un qui va se servir du médium à fond. Par exemple, que ce soit dans Babel ou dans 21 grammes, il va faire ce qu'on appelle des films choraux, c'est-à-dire qu'il va suivre en même temps dans des narrations parallèles plusieurs personnages qui vont se rejoindre à la fin. Par exemple, l'autre film choral le plus connu, ça doit être Magnolia. Et donc, c'est vraiment un exercice de style narratif extrêmement compliqué. Et là, il change complètement son fusil d'épaule et il va dire « Ok, je vais faire quelque chose de complètement différent, mais en utilisant le médium cinéma, qui est le plan séquence, ou en tout cas le plan séquence truqué. » Il faut savoir que de toute manière, il y a très très peu de films qui sont entièrement en plan séquence dans leur continuité. Un des plus connus en tout cas, c'est Victoria, un film allemand qui a demandé énormément de préparation. Mais c'est vrai que ça demande, je vais dire, c'est un travail quasiment surhumain de vouloir faire une narration longue dans différents décors sans avoir des plans de coupe ou avoir un montage particulièrement précis. Donc là, Birdman, c'est nécessaire de monter ça. Et je pense qu'on va beaucoup parler du théâtre parce que pour moi, ce plan séquence-là, il vient s'inscrire dans un parallèle avec le médium théâtral.
Mais on y reviendra peut-être un tour de table rapide sur Iñárritu, sur sa carrière. Simon, 21 grammes, ça reste un grand film. C'est effectivement
c'est un chef-d'œuvre, 21 grammes. Voilà. Moi, je suis peut-être, je pense, peut-être avec Alexis autour de cette table, un des plus critiques en général sur Iñárritu, mais je tiens le début de sa carrière pour quelque chose de stupéfiant. Amores Perros et 21 grammes, ce sont deux chefs-d'œuvre. Récemment, une de ses dernières créations était une expérience, non pas en réalité augmentée, en réalité virtuelle, qui avait été présentée à Cannes et ensuite dans toute une série de musées de muséums d'art contemporain. C'est aussi quelque chose que j'avais eu d'absolument sidérant, qui était une expérience totalement immersive et surréaliste sur le passage de la frontière de ce qu'on appelle, de ce que les Américains appellent en anglais les wetbacks, bref, des Mexicains notamment et des Américains du Sud qui passaient au Texas. Et donc tout ça en réalité virtuelle, c'était un truc absolument terrifiant et sublime. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui déteste Iñárritu. Ce qu'il a de spécifique, me semble-t-il, c'est que plus encore que les deux autres très grands réalisateurs mexicains qui ont émergé en même temps que lui, lui il est arrivé un petit peu, il a rompu avec la certaine image d'Épinal qu'on pouvait avoir et qu'Hollywood pouvait avoir du cinéma mexicain, parce que tout simplement, et c'est un énorme cliché ce que je vais dire, mais c'était un cliché qui était très ancré, jusqu'à ce que surgisse Iñárritu, le cinéma mexicain, ça allait rendre Jodorowsky, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens d'Amérique du Sud, c'est un peu comme des Espagnols avec des trucs magiques, pour les Américains, pour Hollywood, mais concrètement. Et tout d'un coup arrive Iñárritu, et plus encore que Del Toro, qui évidemment lui en plus fait du fantastique, beaucoup, et beaucoup de merveilleux, et plus encore que Cuarón, lui, pour le coup, il rompt totalement avec cet héritage mexicain, tout en restant d'une grande virtuosité technique, mais en se basant sur quelque chose qui est de l'ordre d'une dramaturgie plus proche de la tragédie occidentale classique, et par contre, avec aussi un réalisme social extrêmement poussé. Donc, moi, tout ce premier mouvement dans la carrière d'Iñárritu, je le trouve passionnant et sidérant. Avec Babel, il commence à arriver à un truc un peu qui, pour moi, est un peu trop stratifié, mais vraiment, moi, ces deux premiers longs-métrages, je trouve que c'est sidérant ce qu'il a fait.
Alexis, ton rapport à Iñárritu ?
Bah moi le problème c'est ouais pour moi Iñárritu a toujours été quand même un peu le vilain petit canard sur le trio de cinéastes mexicains, même si je leur reconnais à tous les trois et dans des domaines différents un vrai talent de formaliste, et je pense que Iñárritu c'est quelqu'un qui a un vrai œil de cinéaste et qui a réussi à inventer un style visuel qui est reconnaissable entre mille et qui est particulièrement je trouve reconnaissable dans Birdman. À mon sens, ce qui moi m'a toujours dérangé dans le cinéma d'Iñárritu, c'est que c'est un cinéaste qui est je trouve très frontal. C'est un cinéaste qui n'est pas là pour vous mettre dans un certain état d'esprit, de réflexion, d'introspection, et puis qui ensuite vous laisse sortir de la salle en sachant que vous allez commencer à cogiter un peu qu'est-ce que c'est que ces images que je viens de voir, qu'est-ce qu'elles me racontent. Non, c'est un cinéaste qui avance vraiment à visage complètement découvert et qui vous explique clairement de quoi il retourne. Birdman, on en reparlera, c'est vraiment un film assez satirique qui se moque des artistes, ou en tout cas de l'ego des artistes, qui se moque aussi des critiques, et c'est pas la partie la plus fine du film d'ailleurs, et qui justement essaye ouais, de saisir la dimension collective de la création artistique, qu'elle soit théâtrale ou cinématographique. Et pour moi, le film, vraiment, ne cherche pas à aucun moment à cultiver une quelconque ambiguïté. On reparlera du personnage de Birdman, qui est un personnage dans le film. Et pour moi, ce personnage-là est vraiment la clé de ce qui est la signature d'Iñárritu, et ce qui est, en ce qui me concerne, une limite, c'est le fait que chez Iñárritu, tout est à découvert. Et à mon sens, c'est un cinéaste qui ne s'intéresse pas vraiment à la profondeur ou à la complexité de ses récits, qui au contraire cherche un truc très très efficace.
Arthur, pour conclure sur Iñárritu et on rentrera dans Birdman après.
Moi j'ai découvert Iñárritu avec ce film que j'ai vu en salle à l'époque. J'avais, je sais pas, 20 ans je crois. Et je ne l'avais pas revu jusqu'à aujourd'hui littéralement. Et ce qui est intéressant, c'est que moi Iñárritu c'était ça, puis The Revenant quand il est sorti, parce que le buzz à Oscar, il fallait le voir. Je commençais à travailler moi dans une rédaction et autres. Et en fait, il a fallu qu'il sorte son film sur Netflix il y a un ou deux ans pour que je me plonge dans tout le reste de sa filmographie. Et je me suis fait ce que j'aime faire, si vous suivez un peu les podcasts, vous le savez, mais un marathon Iñárritu en quelques jours. Je me suis tout fait. J'ai dû prendre quelques Xanax à la fin, mais moi, c'est un cinéma qui me touche beaucoup, que je trouve extrêmement puissant. Après, j'ai des limites, notamment sur Beautiful, qui est un petit peu trop...
Beautiful, c'est compliqué.
Voilà. Mais, ce qui est intéressant, c'est que je me suis pris toute cette noirceur dans la tronche, et j'ai compris un peu son formalisme, comment il travaille, les récits qu'il veut. Moi, j'aime beaucoup Babel, hein, contrairement à vous autres, pisse froid, mais voilà.
Non, je ne déteste pas. Je dis qu'il arrive un peu à la limite du système qu'il met en place.
On ne commence pas les insultes. Pas tout de suite.
J'ai obligé, ça, j'ai obligé. Et je n'avais pas revu Birdman, qui est effectivement son film peut-être le plus, étrangement, le plus riche thématiquement. En tout cas, celui où il a le plus de choses à dire, peut-être trop. C'est aussi le film où il va, je trouve, en faire le plus des caisses. Enfin, non, il y a The Revenant, mais disons
que
The Revenant.
C'est super sobre.
Ne commence pas, Rio, sinon on te coupe le micro.
Disons que le fait qu'il en fasse des caisses raconte quelque chose parce que ça va de pair avec le récit. Et du coup, j'ai trouvé ça beaucoup plus fort que dans The Revenant, par exemple, que je trouve plus anecdotique, pour le coup.
Alors donc, venons-en à l'objet du délit. Birdman sort en 2014 après Beautiful. C'est un film qu'il va co-scénariser comme Beautiful, alors qu'il n'est pas le scénariste de ses films précédents. Et ça rafle tout, hein, Oscar de meilleur film, meilleur réalisateur pour Iñárritu, meilleur scénario original et meilleure photographie pour le directeur de la photo, Emmanuel Lubezki. On va donc faire un premier tour de table, même si je pense que vous aurez commencé à deviner des tendances dans cette équipe.
Légèrement.
Allez, on commence par Alexis. je vous demande de faire juste une première évaluation, donner un premier aperçu de votre regard sur le film.
Bah, mon regard a un peu évolué, je dois bien le reconnaître. J'ai revu le film pour préparer l'émission et je ne l'avais pas revu depuis sa sortie en salle en 2015, où à l'époque le film m'était un peu tombé des yeux quand même. Et je l'ai réévalué. Je trouve que ce qui fonctionne vraiment bien dans Birdman, et je pense que c'est lié à la mise en scène et à ce parti pris assez radical de tout tourner en plan séquence unique, enfin faux plan séquence unique, je trouve que c'est le tempo comique du film. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est une vraie qualité parce que c'est pas de la comédie juste au service de la comédie. C'est une comédie qui nous renseigne un petit peu quand même sur l'univers et l'espace social, économique, culturel que Iñárritu est en train d'investir, parce que l'idée, c'est d'aller chercher tous les petits travers, tous les signes un petit peu, justement, égocentriques, mégalomanes, qui structurent vraiment ce milieu-là. C'est-à-dire que c'est pas juste des comportements individuels face auxquels on peut s'insurger ou qu'on peut au contraire tolérer ou s'en foutre. C'est vraiment des éléments structurels. Le personnage d'Edward Norton, évidemment, c'est une caricature, mais ce personnage, il est là pour prendre un peu la température d'un certain monde artistique du spectacle vivant et par extension du cinéma, où on est tellement dans la recherche d'une espèce de d'outrance émotionnelle et d'investissement émotionnel qu'on finit par devenir littéralement cinglé, en fait. Et ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Je suis aussi obligé de reconnaître, et je le reconnais d'autant plus facilement que mon regard a un peu évolué de manière générale par rapport à l'époque, que le film est formellement assez impressionnant. À mon humble avis, c'est surtout dû à Emmanuel Lubezki, qui n'est pas seulement chef opérateur, il est aussi steadicammeur, et en l'occurrence, quasiment tout le plan séquence est filmé en steadicam, donc Emmanuel Lubezki a vraiment mis son artisanat au service du projet. Et je pense que le film emporte un peu plus mon adhésion aujourd'hui. Néanmoins, je considère que dans l'absolu, ça reste un film qui a beaucoup de fragilité. Mais on y reviendra dans un second temps.
Sophie.
C'est un film qui a évolué tout le temps dans mon cerveau. Je l'ai adoré à sa sortie, puis je l'ai détesté parce que je le trouvais bête, puis je l'ai trouvé moyen, puis là je le trouve moyen plus. Voilà, c'est une bonne approche. Non, Alexis l'a dit, moi ce qui m'emporte, c'est l'humour. C'est cet incroyable slip blanc que vous avez vu dans l'extrait, qui est quand même sans doute l'un des slips blancs les plus iconiques de l'histoire du cinéma, et il faut le faire. C'est cette espèce de moment de génie que d'avoir choisi Michael Keaton pour jouer un ancien super-héros. C'est super parce que ça s'inscrit dans son époque et il sait utiliser un acteur de son époque pour dire quelque chose du système hollywoodien. Ça, c'est un truc que je lui reconnais. Après, je le dis tout de suite, moi, le personnage d'Emma Stone, c'est un grand nom et la fin du film, c'est un grand nom aussi. Donc, c'est quand même plein de qualités, mais qui est teinté de faute de goût immense à mon goût.
La fin du film qui n'est pas celle qui était écrite, on pourrait y revenir.
Oui, c'est voilà.
Et vous qui nous écoutez en ligne, qui n'avez pas la chance d'être ici à la ferme du Buisson, vous pouvez nous dire sur les réseaux sociaux quels sont vos films préférés avec un slip blanc. Hashtag RST slip blanc. Simon.
Non, alors bien. Il faut toujours dire d'où l'on parle. Et moi, j'aimerais.
D'une chaise.
Bien sûr. J'aimerais préciser que j'adore je suis plutôt quelqu'un de pacifique dans la vie. Je suis pas pour faire du mal aux gens. Néanmoins. Il y a, je dirais approximativement, trois sous-catégories humaines qui correspondent, hélas, statistiquement, un peu plus souvent au genre masculin adolescent. Donc, je pense qu'on peut envisager de se débarrasser avec des objets contondants. La première, c'est les gens, vous savez, et ça, je sais parce que j'ai eu cette maladie, vers l'adolescence, c'est ces garçons qui ont un espèce de sentiment de toute-puissance, quoi. Le monde est à moi, je suis gigantesque, je vais réussir des trucs incroyables, regardez comme c'est brillant. Voilà, ça, c'est une première catégorie. Il y a une deuxième catégorie, ce sont ces gens, vous savez, toujours aussi vers l'adolescence, qui se retrouvent dans leur première soirée et qui confondent un joint avec une cigarette ou qui boivent une bière sans alcool, une tourtelle, et qui 5 minutes après sont « Je suis complètement arraché, c'est complètement dingue oui, !» Et puis, il y a une dernière catégorie. Ce sont ces gens qui sortent d'une interrogation écrite, d'un devoir, et qui disent « Je crois que j'ai tout foiré. Oh non, j'ai 19 de dingue !» Eh bien, Iñárritu réussit à faire les trois en même temps. Et ça, je veux bien reconnaître que c'est incroyable, mais c'est parfaitement insupportable. Et pour être un peu plus cinématographique, et je m'arrêterai là avant de passer la parole à Arthur, c'est un film qui est virtuose en tout, mais dont il me semble que tous les dispositifs extrêmement complexes, fins et encore une fois superbement exécutés finissent, ou plutôt assez rapidement, commencent à s'annuler les uns les autres parce qu'ils sont pensés par et pour leur virtuosité plus que pour leur sens. Et l'exemple, pour moi, c'est parfait l'exemple que l'extrait qu'on a choisi, parce que cette scène, elle commence par ce qui devrait être un moment comique, quoi. Il se coince sa robe de chambre et tout, etc. Mais sauf qu'on est dans un plan séquence filmé par Emmanuel Lubezki, qui est généralement contre-plongé par rapport aux comédiens. Donc déjà, on est emmerdé parce qu'on les magnifie en se moquant d'eux. C'est pas toujours d'une grande clarté. Et là, surtout, on peut pas faire de découpage comique. Et il y a plus de tempo comique. Alors, Dieu merci, la photo est magnifique, mais le plan, il est composé de manière, mais extrêmement arbitraire. Je vais pas vous rappeler ce qui s'est dit dans un certain film de Steven Spielberg où David Lynch joue un grand réalisateur. Mais en gros, voilà, il parle de composition d'image et il dit, en gros, quand c'est harmonieux, basique, bah, c'est un peu con. Bah oui, mais là, en fait, comme on est dans un truc aussi dingo qu'un plan séquence complet, on n'a pas tant que ça de possibilités de composition. Et voilà, il me semble que le film, paradoxalement, par sa virtuosité même, se saborde en permanence.
Arthur. Comme je disais, donc moi je ne l'avais pas revu depuis 2014, et donc moi en 2014 je suis au début de ma cinéphilie, quand je vois Birdman je reste bloqué sur ce que tout le monde dit, à savoir c'est un plan séquence, et je ne vois que ça, je n'ai pas encore les capacités d'analyse et le bagage culturel pour comprendre tout ce qu'il y a autour. Et donc tout à l'heure je me suis pris une claque parce que je pensais que voilà, j'allais voir un grand plan séquence, et en fait j'ai réalisé la quantité de sous-texte qu'il y a. Effectivement, tout le discours sur les super-héros, mais ça va bien au-delà du casting de Michael Keaton, hein, parce qu'il y a plein de références. Il y a aussi dans le casting donc, un certain Edward Norton qui a joué un super-héros une seule fois et qui s'est fait balancer. Entre parenthèses, Edward Norton, je pense que c'est sa meilleure partition. Je pense qu'il n'a jamais aussi bien joué que dans Birdman.
Ça se discute.
Bah, alors, j'aimerais bien savoir avec quoi ça se discute.
Fight Club.
Vous le dites en même temps, personne ne comprend rien.
Ça ne fonctionne vraiment pas.
Vas-y,
alors,
Fight Club.
Ouais.
Non. Voilà.
Je ah bah si.
La 25e heure.
Peut-être.
Merci Simon, la 25e.
Peut-être. Le fait est qu'Edward Norton est fascinant là dans ce film. Et non, moi j'ai été bluffé de tout ce que le film peut raconter. Moi j'ai une mère qui est prof de français et qui est devenue prof de théâtre. Et donc elle me parle beaucoup de théâtre, de films sur le théâtre. Et je trouve que la manière qu'a Iñárritu de raconter ce qu'est le théâtre, mais en même temps plutôt ce qu'est l'industrie de Broadway, en même temps que l'industrie hollywoodienne, en même temps que l'ego des artistes face à cette question de comment on va se souvenir de moi plus tard, quelle est ma place dans cette industrie, quelle est ma place dans ma vie, ce qu'on rate ou pas. Enfin, je trouve que le film est en fait extrêmement riche. Et de mes souvenirs, en 2014, on parlait vraiment que du plan séquence. Et pour moi, parler que du plan séquence, c'est un peu passer à côté du film. Évidemment que ce plan séquence raconte aussi quelque chose dans son dispositif, mais que c'est loin d'être la plus grande qualité du film, même si formellement, c'est dingue. Je ne sais même pas comment ils ont pu faire.
Alors bon, moi je ne vais pas donner mon avis parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc... Oh, sauf si vous insistez. Non, allez, ouais. Merci, vous êtes gentils. Ouais,
j'ai besoin de toi parce qu'on ne va pas être nombreux à le défendre.
Pour redire un mot sur Iñárritu, moi je suis exactement comme Simon et Sophie. Amores Peras et 21 grammes sont pour moi des chefs-d'œuvre. 21 grammes, peut-être l'un des films les plus noirs que j'ai vu de ma vie. Et arriver à ce niveau de noirceur-là sans pour autant basculer dans le Anne que le Et pourtant, on est un peu parfois à la frontière de ça, c'est-à-dire ce qu'expliquait très très justement Alexis, c'est-à-dire cette espèce de frontalité dans la douleur, dans la violence, dans la représentation de la misère humaine, de la noirceur, de la petitesse et des bassesses morales, il faut quand même être accroché pour les supporter, et on en sort effectivement un peu éprouvé. De même, je lâche un peu Babel, je trouve que ça commence à se systématiser surtout, et du coup je perds un peu l'intérêt, et j'avais vu Birdman que j'avais effectivement plutôt bien aimé, et je l'ai revu comme tous mes petits camarades pour cette émission, et j'ai été séché. Ce film m'a littéralement séché. C'est un tour de force narratif et visuel. C'est une œuvre unique, c'est-à-dire que Birdman a été fait une fois, propose un rapport au cinéma, un rapport à la narration avec une profondeur de champ, une profondeur de narration sur plusieurs niveaux, parce que le film ne cesse de se lire lui-même comme le média qu'il est en train d'analyser, c'est-à-dire comme une pièce de théâtre dans la pièce de théâtre dans la pièce de théâtre. Les plans séquences et chaque séquence est filmée à la manière d'une pièce de théâtre, et cet effet de plan séquence continu et de temps réel est exactement le sentiment que l'on a quand on assiste à un spectacle vivant sur une scène. Donc voilà, encore une fois, le degré, les niveaux d'analyse, on pourrait y revenir, mais même quand il verse dans la critique un peu facile, un peu épaisse, un peu grossière, on est dans la comédie, et le personnage de la critique, qui est effectivement d'une épaisseur et d'une rigidité monolithique, mais en fait, ça marche absolument complètement à l'intérieur et avec ce dispositif. Et du coup, c'est un film, pour moi, qui est un film vertigineux, qui est une expérience cinématographique unique, extrêmement précieuse, d'une maîtrise formelle et d'une maîtrise fictionnelle total, j'y vois effectivement plein d'échos. J'ai l'impression de ne même pas avoir eu le temps de les voir ou de les distinguer tous, parce qu'ils citent à tour de bras, ils citent Opening Nights, par exemple, ils citent Cazavet au taquet. Il s'est truffé de références. C'est effectivement son principal défaut, c'est que le film est tellement vertigineux et tellement magistral qu'il peut avoir ce côté agaçant de film de premier de la classe qui réussit tout, comme le disait Simon. Et je suis finalement assez d'accord, paradoxalement, avec ce que tu dis, parce que c'est effectivement une claque. C'est un film qu'on vit comme une expérience, dont on ressort sonné, lessivé, ébahi, abasourdi et émerveillé. C'est drôle tout le temps. Le tempo comique, moi, contrairement à ce que tu dis, Simon, je trouve que justement, il arrive tout le temps, alors que c'est effectivement extrêmement difficile, puisqu'il n'y a pas d'effet de montage, donc on ne peut pas justement couper. Eh bien, il arrive malgré tout à le maintenir dans la longueur. Et moi, je trouve que justement, dans la scène qu'on a vue, c'est exactement cette démonstration-là. C'est-à-dire qu'il arrive à tenir la gêne et l'incarnation, pour finir, de Michael Keaton est magistral. C'est le plus grand rôle, le meilleur rôle de Michael Keaton, où il déploie une qualité de jeu qui est vraiment, pour moi, vertigineuse de la même façon. Vertigineuse, c'est le mot que je répète à l'envi, parce que c'est vraiment ce qui me ressort du visionnage du film.
Mais est-ce que vous n'avez pas, je ne pose pas la question qu'à toi, hein, bien sûr, je pose à tous mes petits camarades. Oh, je vous en prie, Nicolas, pas de sang entre nous. Mais moi, il y a vraiment quelque chose qui me tape un peu sur le système avec cette idée des artistes, artistans, dans le monde terrible du grand pays de l'artistanat.
Je suis d'accord.
C'est vraiment un truc, moi, qui me met hors de moi. Et pourtant, le cinéma, j'aime beaucoup, le théâtre, j'aime beaucoup. Il se trouve que tous autour de ces tables, parce que nous avons deux tables, tous autour de ces deux tables, on a des rapports à l'art, mais aussi à la création, je veux dire. Donc, je trouve que ce qu'entretient, cette espèce de mythe qu'entretient le film, quand bien même il feint de le critiquer, parce qu'il feint de le critiquer en ayant une admiration béate.
C'est un grand film misanthrope. C'est un film qui déteste tout le monde. C'est un film qui déteste Broadway comme il déteste Hollywood. C'est un film où
je pense plus la critique que les personnages d'artistes.
Hein, je suis pas d'accord avec ça.
Il a beaucoup de tendresse pour eux, par exemple. Enfin, typiquement, le personnage, mon Dieu, de l'abominable Shiner, qui est joué par Norton, il le déteste pas vraiment, c'est pas vrai. Je veux dire, punaise, si tous les corps de métier devaient nous emmerder avec un pensum pareil sur leur métier, ce serait insupportable.
Mais ça s'appelle une satire, Simon. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la satire d'un milieu en particulier.
C'est là
c'est
que
le problème
commence.
Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas mon sujet. Mon problème, c'est cette idée qu'il n'y a que dans le milieu du théâtre qu'il y a de la création, qu'il y a de l'inspiration, qu'il y a du truc. Cette espèce de regard sur soi que peut avoir parfois le cinéma comme le théâtre, moi, me met très mal à l'aise, vraiment.
Sophie.
Je vais me faire l'avocate du diable parce qu'encore une fois, j'ai plein de reproches à faire au film. Mais cependant, je trouve que la réflexion qu'il ouvre sur le théâtre, parce qu'on est là aussi pour parler de théâtre, c'est dans son faux montage. Il faut savoir que de base, le théâtre est un immense plan séquence. Mais c'est un faux plan séquence parce que vos yeux voient un plan séquence, sauf quand vous clignez, mais ça c'est autre chose. Mais il est juste entrecoupé de rideaux pour créer des changements de décors, des plateaux qui tournent, pour changer les décors. En fait, ce sont des artifices de changement et de modification de narration qui sont propres au théâtre que Iñárritu va utiliser dans son plan séquence. Et là, je trouve qu'il a réussi à capter quelque chose de l'art théâtral que d'autres n'ont pas fait. Les autres vont faire des hommages à la création théâtrale, qui vont faire juste une réflexion autour. Lui, pour le coup, il va mettre sa caméra et ses artifices de cinéma au service d'une captation théâtrale. C'est pour ça que je pense que c'était le meilleur film pour en parler aujourd'hui, parce que c'est le seul, pour moi, qui a vraiment réussi à créer une vraie pièce de théâtre à l'écran qui parle de théâtre. Donc pour moi, c'est pas qu'une réflexion sur la création, la misanthropie. Par contre, moi, j'ai des vrais soucis avec le film sur les autres personnages. C'est-à-dire que pour moi, dès qu'il va hors du théâtre, c'est inintéressant. C'est vraiment quand il parle d'Edward Norton, quand il parle de cette espèce d'archétype, de mec génial qui ne peut être dans son personnage que quand il est alcoolisé parce que son personnage boit, ou qui ne peut que faire des choses réalistes, ça, je trouve ça super parce qu'il a une réflexion dessus. Bon, moi, dès qu'il y a le personnage de sa fille, c'est là pour faire du remplissage. Et moi, c'est là que j'ai ma limite. C'est que je trouve que dès qu'il va sur des relations externes au théâtre, il se perd.
Arthur ?
Moi, je suis pas d'accord pour le coup, le personnage de la fille. Alors, on peut aimer l'écriture du personnage ou pas, mais pour moi, il a un intérêt principal, c'est de prouver qu'il passe à côté de sa vie et que le personnage de Michael Keaton est tellement concentré sur quel est l'héritage que je vais avoir. Je veux pas qu'on me reconnaisse comme étant Birdman, je veux prouver que je suis aussi un artiste, qu'il passe à côté complètement de l'éducation de sa fille, de la vie de sa fille. Et pour moi, ce personnage ne sert que à ça, entre guillemets, mais c'est le pan principal du film.
C'est bien le souci, c'est que elle n'est là que pour être un arc narratif, donc elle a rien à jouer. Et pour moi, c'est un vrai souci, parce que si tu veux créer une espèce de manque, tu n'es pas obligé de créer un espèce d'artefact, tu peux le mettre en scène d'une autre manière. Là, je trouve que le personnage est creux, qu'elle a rien à défendre, que son amourette avec Norton, elle sert à rien, et vraiment, je trouve qu'il vient parasiter son film, alors qu'au milieu, Genre, je suis fascinée par ces films qui font 2 heures et au milieu, il y a un film d'une heure et demie qui est parfait et qui vient parasiter au milieu de plein d'artefacts, d'artifices qui viennent vraiment graisser le truc. Moi, Birdman, je le trouve presque indigeste à certains moments parce qu'il s'évade de son propos.
Mais il me semble, Sophie, puis je donnerai la parole à Alexis après, il me semble, Sophie, tout de même, que ces personnages secondaires, le personnage d'Emma Stone, le personnage de son ex-femme, le personnage de l'actrice qui est aussi sa conjointe, qui est enceinte, pas enceinte, et qui est à peine effectivement effleurée, hein, qu'on voit à peine, tous ces personnages-là nous disent quoi de lui ? C'est que finalement, sa quête d'amour, ça n'est à aucun moment une quête d'amour romantique, ça n'a plus aucune importance. La seule quête d'amour qui vaille pour lui, c'est la quête d'amour du public. C'est tout. C'est-à-dire que finalement, sa vie amoureuse est réduite à néant par sa recherche de notoriété et par sa recherche de postérité.
C'est pour ça que je sauve le personnage d'Amy Ryans qui joue son ex-femme. Si vous la connaissez pas, elle joue dans The Office, elle est incroyable. Bref, elle, je la sauve parce qu'elle vient vraiment faire un miroir. Là où je trouve que vraiment le personnage d'Emma Stone est une coquille vide, une espèce une caricature de presque d'enfant star ou d'enfant de star. Elle n'est là, elle est pensée uniquement pour être too much. Elle est droguée, elle aime pas son père, elle est rebelle, elle a une mèche un peu comme la mienne, un peu en mode année 2000, je suis un peu émo, je me mets du mascara qui coule. Elle est pas caractérisée comme il faut. Et ça, c'est un vrai souci.
Alexis, peut-être pour revenir plutôt sur la mise en scène du théâtre dans le théâtre et les différents niveaux de mise en scène, puisqu'il y a la pièce dans la pièce et le film fonctionnement lui-même comme un spectacle en temps réel, comment est-ce que tu le vois ? Parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de films qui proposent ce type d'approche, comme le disait très justement Sophie, et je pense que c'est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quelque chose de totalement unique dans la jonction qu'il peut y avoir entre les deux arts.
Bah, oui, je pense que sur ce point précis, le film est assez singulier, surtout que, en général, même si techniquement, on pourrait considérer que Birdman est, dans certains moments, une adaptation d'une pièce de théâtre, hein, puisqu'on a quand même une reconstitution partielle, hein, mais une reconstitution une adaptation de la pièce de Raymond Carver, What We Talk About When We Talk About Love, c'est ça, qui est une pièce très importante du théâtre américain. Effectivement, en général, le rapport entre théâtre et cinéma sont limités à des questions, justement, d'adaptation. C'est pas le cas tout le temps, hein. Il y a aussi des films qui abordent cette question du théâtre de manière plus détournée. Sophie parlait tout à l'heure d'un film tourné en vrai plan séquence qui s'appelle Victoria de Sebastian Schipper. Il y a un autre film tourné en vrai plan séquence qui entretient pas mal de parallèles avec le théâtre, mais de manière beaucoup moins frontale. C'est L'Arche russe de Sokourov, d'Alexander Sokourov. Si vous n'avez pas vu L'Arche russe, honnêtement, c'est très chiant, mais c'est passionnant. Mais c'est vraiment passionnant, par contre. Il y a des images de cinéma dingue dedans. Le principe est simple. On suit un personnage complètement fantasmé qui se balade au sein du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg et on revisite au travers des pièces du musée toute l'histoire de la Russie. Et c'est un vrai plan séquence qui a nécessité 5 mois de répétition pour quelques jours de tournage, en définitive. Donc, le film, l'utilisation du plan séquence, elle est intéressante parce que, c'est bête, hein, mais il faut quand même le rappeler, quand vous allez au théâtre, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de montage au théâtre. Donc le fait de choisir de tourner dans un théâtre sur un comédien qui adapte une pièce de théâtre dans laquelle il joue sans utiliser le montage et donc revenir aux bases théâtrales du cinéma, c'est plutôt intéressant. Et de manière générale, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur le contenu du film, Nicolas, sur sa mise en scène, sur la mise en abîme. Effectivement, elle est à l'époque, d'autant plus qu'aujourd'hui, très intéressante sur Michael Keaton, qui joue plus ou moins son propre rôle. Birdman est une allégorie du Batman de Burton, etc. Je trouve ça très intéressant. Moi, encore une fois, le point sur lequel j'ai quand même envie d'insister, c'est que tout ce que le film a d'intéressant à dire, justement, il le dit explicitement. Moi, je pense que vous pouvez regarder les 15 premières minutes de Birdman et comprendre 80% de ce que le film a à vous dire. Notamment sur... Il y a quand même un élément très important de la mise en scène, qui est d'entretenir la confusion permanente entre les points de vue. Il y a 2 points de vue en fait dans le film qui sont mélangés grâce à l'utilisation du plan séquence, ce qui est plutôt malin, hein, en termes de mise en scène. Si vous avez d'un côté un point de vue relativement omniscient sur ce qui se passe dans les coulisses de ce théâtre, à savoir le bordel en permanence, et vous avez le point de vue de Michael Keaton, qui est un point de vue biaisé parce qu'il a clairement un trouble psychiatrique, il a des hallucinations, il est peut-être schizophrène ou je ne sais quel trouble assez grave, pas soigné, il n'a pas de médicaments, donc on sent que le personnage est une espèce de cocotte minute, et qu'à un moment, ça va exploser. Bon, bah ça, la première séquence vous le dit. Voilà, c'est dit. Le film ne va pas faire autre chose par la suite que d'insister sur cette idée, à mon sens, sans jamais la développer. Et je pense qu'on peut dire ça d'à peu près tout ce que le film a à dire. C'est exposé tel quel d'un coup, et après, c'est répété. Et c'est là où je vais revenir à ce que disait Simon tout à l'heure. Comme le film répète un peu toujours les mêmes choses, au bout d'un moment, on se désintéresse un petit peu de ce qu'il a à nous dire, vu qu'on l'a déjà compris, qu'il nous l'a déjà expliqué clairement. Du coup, ne reste que le plan séquence, et c'est pour ça, je pense, Arthur, qu'à l'époque, les gens gardaient vraiment le plan séquence en tête. Parce que, au bout d'un moment, il ne reste que ça à regarder, aussi virtuose que ça soit, ça finit par tourner un peu à l'épate, quand même.
Il y a quand même un enjeu narratif dans le film. Il y a quand même un enjeu de savoir est-ce qu'il va aller à la première, est-ce que ça va marcher,
bah oui.
Arthur.
Bien sûr, oui. Mais il y a un scénario, quoi.
Oui, mais ça veut dire qu'il y a une progression, il y a une progression, il y a un arc narratif. Ah, mais donc il y a une évolution des personnages.
J'appelle
une évolution
notable,
en tout cas, du personnage principal.
Il y a une évolution des personnages.
À ma place, tu as rien fait. Je suis mille fois d'accord avec toi, Nico. Tu peux pas dire que dans les 15 premières minutes, on comprend tout le film, puisque tout l'intérêt, c'est de comprendre.
Je n'ai pas dit qu'on savait où allait l'histoire. J'ai dit que thématiquement, il avait tout dit. De fait, il a tout dit.
Bah non, il a pas tout dit.
Qu'est-ce qu'il a pas dit alors?
Bah, il y a quand même toute cette notion aussi de la maladie psychique dont tu parles.
Bah, c'est dit dès la première séquence.
Deuxième plan.
Non, c'est pas ça. C'est que du coup, ça apporte un peu de fantasmagorie dans le récit qui amène à cette fin. Typiquement, la fin, tu la devines pas dès le début et thématiquement, elle raconte autre chose. L'évolution de lui, comment il réfléchit à ce que j'abandonne mon rôle ou pas, jusqu'où je vais pour essayer de ne pas être cantonné à Birdman, etc.
Mais on le sait dès le début, ça. On sait déjà quel est ce conflit et on sait qu'il est insolvable puisque le personnage est présenté dès le début comme psychiatriquement malade. Donc on sait que le truc est insolvable. Alors il se fait interner.
Alexis, alors du coup, il me semble que le reproche que tu fais à Birdman est un reproche qui me paraît relativement étrange parce qu'il y a plein de films qui exposent absolument tous leurs thèmes et qui dévoilent leurs cartes dans les 15 premières minutes et qui néanmoins t'accrochent absolument jusqu'à la fin et qui te donnent envie d'aller voir comment ce programme-là va se dérouler.
Je ne dis pas que le film ne m'accroche pas, je le regarde vraiment sans déplaisir. Attention, j'insiste là-dessus. Le point sur lequel j'ai envie de m'attarder un petit peu, parce que je pense que c'est important, surtout pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, le fait est que j'ai vu le film deux fois. À chaque fois, je le trouve bien rythmé, bien construit, entraînant. Je sors du film, je n'ai aucune matière à penser parce que j'ai l'impression que le film a déjà mâché le travail.
Et t'es pas content d'avoir vu un truc hyper virtuose. Bref, allez, Simon.
Pardon. La virtuosité pour la virtuosité, écoute, ça m'intéresse pas beaucoup.
Je citerai François Végodeau qui trollait comme un cochon il y a une dizaine d'années sur le plateau du Cercle. Il avait dit.
Pourtant, troller, c'est pas ton habitude, Simon, quand même.
Jamais. Il avait dit la technique, ce truc de nazi. Et bon, c'est, okay. je pense que c'est douteux comme argument.
C'était moyennement du troll en plus, malheureusement.
Non mais moi par exemple là où j'ai un souci avec le plan séquence, moi je comprends bien cette espèce d'intention de tiens on va reproduire quelque chose de la continuité théâtrale, on va essayer de retrouver quelque chose en fait de la présence singulière qui est celle de l'acteur de théâtre. Ok, mais le fait est que je suis quand même au cinéma devant un écran. Et là, moi, l'énorme problème que j'ai avec ce plan séquence, tu disais, je crois, Alexis, il y a deux points de vue dans le film. En réalité, moi, mon problème, c'est que soit il y a 2000 points de vue dans le film, soit peut-être même il n'y en a pas. Parce que comment est-ce qu'on crée du point de vue au cinéma? Bah avec la mise en scène, avec des effets de montage, avec le fait d'alterner un plan, un autre. Mais quand tu es occupé à réussir ce tour de force, parce que c'est un tour de force, à savoir réussir à organiser ta dramaturgie dans un plan unique et ta photo et la composition de tes plans, bah tout d'un coup, tu n'utilises plus la grammaire habituelle du cinéma, ou quasiment plus. Et dans un film qui, justement, est quand même manifestement, vu ce qui s'y déroule, intimement lié à la psyché de son héros, moi, au bout d'un moment, j'ai même l'impression qu'il n'est pas certain de ce qu'il me raconte.
Donc, traduisons-le, tout film en plan séquence est un film qui n'a pas de point de vue.
Non, pas du tout, je te dis, cette utilisation du plan séquence contrevient à la volonté d'être dans la psyché de ce personnage. En fait, la mise en scène ne cesse de me rappeler que je suis à côté de lui et pas dedans.
J'ai une mauvaise blague là-dessus.
Et Dieu sait que ça nous est souvent arrivé.
Pardon.
Non, alors... Et je déteste ça. Pendant 2 heures,
ça suffit. Arrête. Laisse-moi reprendre. Non, alors je vais essayer de le retourner différemment. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de passionnant parce que je suis pas du tout d'accord avec toi parce que je trouve qu'on est au contraire complètement plongé dans le maestrol délirant du délire persécutif, du délire égotique de ce personnage de Michael Keaton, qu'il arrive par ailleurs autre tour de force à ne pas rendre totalement antipathique parce que le même personnage traité autrement, et comme tu le disais d'ailleurs très justement, il me semble que c'était toi Alexis, il a de la sympathie et de la tendresse pour ses personnages, et il ne les regarde pas de haut, pas sauf la critique, puisque finalement no spoiler, mais l'issue ne sera pas exactement celle qu'on attend.
Ah bah si.
Ah, si.
Non,
ah
bah, si. Bon, on n'est pas d'accord.
Je suis pas du tout d'accord.
On n'est pas d'accord. On est pas d'accord.
Et puis on parle de 5 minutes dans un film de 2 heures surtout. Hein.
Mais ce que je veux dire, ce que je trouve là aussi relativement intéressant, parce que je suis encore une fois relativement d'accord avec ce que tu disais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Simon, avec ce côté m'as-tu vu, t'as pas l'œil, et premier de la classe qui réussit parce que c'est un élève brillant, parce que c'est un cinéaste brillant, parce que c'est un formaliste brillant, mais néanmoins. Je veux dire, quand il traite de l'ego fracturé de Michael Keaton qui cherche en permanence l'approbation, bah, il parle évidemment de lui.
Bah, bien sûr. Et la grandiloquence du récit va aussi avec ça. Il en fait des caisses, mais parce qu'au final, le personnage de Michael Keaton aussi, en fait. Et quand il parle d'essayer de dépasser les grands succès, d'essayer d'avoir une autre image, de changer de carrière, comme lui, quand il est passé d'un seul coup des films mexicains à Hollywood, il parle de lui. Et du coup, le fait de faire un film grandiloquent, qui en fait des caisses, qui est un bon élève, en fait, c'est aussi le propos de Michael Keaton, qui lui aussi essaye de faire une grande pièce avec des jeux, des machins. D'un seul coup, ça s'arrête, ça fait un monologue sur scène, on se tue avec. Enfin, il parle de lui. À 1000%. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas aussi compris les critiques qui ont été faites à l'époque sur le fait que c'est un film prétentieux. Alors que justement, il a un gros commentaire sur ça. Et moi, je suis pas exactement d'accord avec vous. Je suis pas sûr qu'il ait énormément de sympathie pour tous ces personnages. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'il les déteste tous. Mais c'est ça qui m'intéresse, en revanche. J'ai l'impression qu'il les déteste un peu tous.
Il déteste l'humanité, je pense. Il est très misanthrope.
Voilà.
Il n'a pas la position du Mirador sur ces personnages. Enfin, tu vois,
non, je suis d'accord.
Ce ne sont pas des personnages détestables. C'est-à-dire que lui, déteste l'humanité.
Ce sont des personnages détestés et pas détestables.
Voilà, c'est ça. Sophie.
Non, moi, c'est juste que ce qui me gêne dans tout ce qu'on dit, c'est que de base, le film n'avait pas la même fin qu'on a vue. Et pour moi, c'est un autre film. Et je pense que j'aurais vraiment préféré l'autre.
Tu nous la racontes ?
Ça ne gêne personne.
La fin
elle n'est pas dans le film.
C'est la fin qui n'existe pas. Donc.
C'est compliqué de parler de la fin alternative sans parler de la vraie fin. Mais de base, ça devait être une boucle temporelle. C'est-à-dire que la fin devait recommencer au début. Et l'ouverture du film, c'est vraiment Michael Keaton, encore une fois, en slip blanc. Sinon, c'est pas drôle. Qui fait du yoga avant les répétitions et qui lévite un petit peu au-dessus du sol et qui a sa voix de Birdman, du coup, qui est le deuxième personnage dans sa tête, qui parle et qui dit bah, comment t'en es arrivé là ? Ça sent les couilles. Désolé, c'est littéralement ce qui est dit. Et qui fait déjà une critique. Et je pense que limite, il se serait presque plus, j'ai envie de dire, rapproché du cinéma mexicain, d'une certaine manière, avec une forme d'allégorie extrêmement tenue, comme a pu le faire Guillermo del Toro, par exemple, avec Le Labyrinthe de Pan, et d'ancrer une histoire fantastique dans un monde extrêmement réel. Pour moi, si ça avait bouclé, on serait rentré dans une espèce presque de descente aux enfers et de blocage pour un personnage vaniteux, du coup, une espèce de punition divine qui l'aurait enfermé dans un monde à la fois théâtral de Broadway, hollywoodien, et en fait pour moi ça aurait été une espèce de sanction divine extrêmement intéressante. Après, je sais pas exactement comment ça aurait été fait, peut-être que ça aurait été extrêmement grossier, peut-être pas, mais j'aimais ça. Là, la fin, je la trouve ratée à 100%. Alors qu'encore une fois, j'ai parlé en langage Arthur, sur Letterboxd, j'ai mis 3,5. C'est pas une mauvaise note, 3,5, hein, c'est plutôt une bonne note.
Ah, je suis d'accord.
Voilà. Mais franchement, il perd un point pour la fin. Hein.
Alors, Sophie, juste moi, si je peux me permettre, la fin que j'avais lue, parce qu'il y a eu plusieurs fins, hein, ils ont essayé plusieurs choses, mais la fin, la toute première, la fin initiale, c'était dans la même loge, la même scène effectivement, mais avec un autre acteur, c'était Johnny Depp, avec l'affiche de Pirates des Caraïbes, et qui reprenait la perruque.
Oula.
Et donc il y avait une nouvelle mise en abyme en disant voilà, c'est un autre héros, ouais. Et donc on le réancre dans la réalité d'Hollywood, etc.
Mais parce que Johnny Depp avait été aussi envisagé avant Michael Keaton, de ce que j'ai lu. Donc ça a été... D'ailleurs, je suis ravie que ce soit Michael Keaton, hein, y a pas de doute là-dessus. Mais ouais, non, pour moi, ça aurait été une autre fin. Et là, je vais parler un petit peu de manière souple et sans spoiler quoi que ce soit.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Je trouve qu'elle est incohérente. Parce que, en tout cas, vous avez tous vu cette image de fin. C'est vraiment le regard ébahi d'Emma Stone, complètement en mode « Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» Je suis désolée, je l'adore comme actrice, mais alors ce plan-là, je le vomis un peu. Et d'un coup, je suis en mode « Mais ça ne marche pas. Moi, j'aime bien être cohérente. Donc, je me dis, ce n'est pas possible parce que du coup, quel est le point de vue? Quel est le point de vue? Ça peut pas être le sien. Ça peut pas être celui d'Emma Stone. Ça peut pas être celui qu'on a suivi de Michael Keaton parce que techniquement, et blablabla. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je me dis, c'est qui ce plan? Et si c'est Iñárritu, je comprends pas non plus. Qu'est-ce qu'il veut me dire avec ce regard ébahi de, finalement, tout va bien? Non. Voilà, Simon le refait hyper bien, franchement. Je suis désolée pour ceux qui ne sont pas à la ferme du Buisson et vous n'avez que l'audio. Simon a fait une imitation absolument incroyable.
Deux secondes, j'ai eu un éclair de génie. Oui. J'ai un autre slip blanc très connu.
Alors, attention, hashtag restez
sur
slip toi blanc.
Non, pas sur moi. Vos meilleurs... certainement pas sur toi non plus.
Vos meilleurs slips de slip blanc, hashtag restez slip blanc.
C'est Breaking Bad.
Pardon ?
Breaking Bad.
Évidemment. Voilà.
Pardon, j'ai eu vraiment un éclair. Bah oui.
Merci.
Excusez-moi.
Bravo.
Et Simon aussi. Les putes de l'autoroute 2.
J'ai dit le Rocky Horror Picture Show.
Les putes de bien sûr, le Rocky Horror Picture Show.
Ah, Brad. Pardon.
Mais le slip blanc, il reste pas longtemps, les putes de l'autoroute.
Bref. Ah, non, mais Alexis. C'est dans un numéro. De... Oui.
Juste un petit point, parce que je pense que Birdman aussi a fait date dans l'histoire du cinéma récent, du moins. Et ce qui est intéressant, moi je pense, parce que ça a été mon cas, et je suppose humblement que je suis pas tout seul dans ce cas-là, je pense que le film a. Effectivement, peut-être souffert de certaines critiques qui se sont limitées à l'aspect formel, soit pour l'encenser, soit pour le démolir. Il y avait peut-être quand même plus de choses à dire du film que ça. Je pense aussi que ce qui a beaucoup coûté au film, c'est le battage médiatique gigantesque qui l'a entouré. C'est-à-dire que moi, on ne m'a parlé que de Birdman pendant 3 mois. Même si vous adorez le film, ça devient relou. Et surtout, il y a eu The Revenant derrière, quoi. Et The Revenant, c'est quand même un peu.
Je suis d'accord avec toi.
C'est un film beaucoup plus cynique. Que Birdman, et moi c'est vraiment un film que pour le coup là, je déteste et j'envisage pas de le réhabiliter un jour parce que The Revenant à mon sens est un film qui surfe sur le succès institutionnel et populaire de Birdman. C'est la même volonté, on reprend Emmanuel Lubezki, on repart avec un parti pris de mise en scène qui fera les gros titres des journaux spécialisés. Alors là c'est plus un plan séquence unique, c'est on va dans le Grand Nord tourner en lumière naturelle. Ça veut dire que parfois on va pas tourner pendant 3 mois parce qu'on a pas la lumière qu'on veut, et je me souviens de quantité d'articles qui parlaient de ça qui étaient insupportables. Et puis on reprend un acteur qui court après la reconnaissance des institutions depuis très longtemps.
Je veux mon Oscar, ok.
Voilà, en l'occurrence c'est Leonardo DiCaprio, et on accouche d'un film qui lui aussi, comme Birdman, est un film très frontal et à mon sens beaucoup plus simpliste encore que Birdman, parce que c'est un film qui, au lieu de vous plonger dans la nature pour peut-être faire en sorte que vous viviez une expérience mystique, c'est un film qui vous répète en permanence, regarde à quel point la nature est mystique en mettant au milieu de la forêt des grosses églises. Bon, super. Non mais en fait, je pense que Birdman vaut peut-être le coup d'être revu par les gens qui l'ont détesté à l'époque, parce que la sortie relativement proche de Birdman et The Revenant, à mon sens, a peut-être un peu trop éclipsé le premier, et peut-être un petit peu nous a amené un peu à caricaturer les reproches qu'on pouvait lui faire, même si encore une fois, c'est un film avec lequel j'ai des problèmes, mais ça n'a rien à voir comparé à la grosse merde qui suit, quoi.
Arthur, moi, juste pour conclure avant les questions du public, en le revoyant, je trouve que c'est un film qui rend extrêmement triste le fait que Michael Keaton soit les tonnerres dans The Flash.
Ah !
Bah ouais, parce que tout le commentaire de comment t'abandonnes ton rôle, etc. Non mais du coup, je trouve ça hyper cynique qu'il ait même accepté, quoi.
C'est bien vu, en tout cas.
C'est dommage parce que The Flash, c'est un assez bon film, pourtant.
Bah ouais, moi je trouve.
Alors non, mais j'avais vendu du sang, des larmes, des pleurs,
non,
des coups de couteau.
Non, on a été fair play.
Non, avant les questions, Simon, on va sortir, on va enlever les gants, on va y aller un peu, on va y aller à la savate, Simon, un peu. Parce que tu m'as dit quelque chose qui m'a ulcéré.
Ah.
Par message, tu m'as dit, je déteste ce film exactement pour les mêmes raisons que tu détestes Lars von Trier. Donc vas-y, come to me.
Mais viens, regarde, si tu veux, il y a quelque chose que je trouve d'une hideur morale terrible.
Allez, dans... voilà, ça y est, on y est. Allez.
Let's get ready to rumble. Dans le fait de... c'est tout con, mais regardez, le film passe, je dirais, à peu près 75% du temps à filmer des personnages qu'il vomit, qu'il méprise et qu'il moque en contre-plongée comme s'il les iconisait. Et il y a une manière de se moquer d'eux qui est terrible. Et on ne me fera pas croire qu'il aime le personnage de Keaton parce qu'il se fout clairement de la gueule de Keaton. Pour nous faire comprendre que c'est vraiment un peu cette image du personnage hollywoodien, il suffisait d'avoir Birdman, Michael Keaton, Batman, la gloire. Mais non, il te met plein de petits détails pour te rappeler que c'est bien la vie de Keaton et que ce type nul qui n'est plus capable de penser qu'à sa postérité, c'est Keaton. Ça, c'est un truc très Lars von Trierien que je trouve assez terrible. Il va même jusqu'à te dire, eh oui, le dernier film que t'as fait, qui est le 3 ou le 4, je sais plus, tu l'as fait en 1992, comme Batman Returns à l'époque, qui est la dernière participation de Keaton à la franchise c'est Batman.
La seule référence directe.
Sachant qu'en plus, c'est le 3 qu'il a arrêté au 2. Donc, tu vois, si on
Si on est à Tillon, tu as tort.
Il y a le costume.
C'est pas la seule référence directe. La référence vous pète à la gueule.
Mais je suis d'accord.
C'est le titre. C'est dans le titre. Alors, Birdman, Batman, c'est la même chose.
Est-ce que vous voulez dire ça?
Il
parlait de l'échec du personnage.
Pas tous en même temps.
Je disais, il a arrêté avec Batman 2 pas Burn, et pas le 3. Donc là,
il a arrêté en 1992, arrête.
Ouais. Donc une référence, une date. Wow.
Mais non, mais si tu veux, on relance le... Écoutez, vous allez rester là pour la soirée. On va relancer le film et je vais me transformer en mitraillette. Non, et si tu veux, tout ça, je le retrouve moi aussi dans ce que tu disais de The Revenant, qui est un film qui surplombe encore également énormément son sujet. Et puis, dans son dernier pensum, et là, c'est terrible de voir ce que devient Iñárritu, parce que Bardo, qui est dispo sur Netflix, c'est 2h39, où on a l'impression que là, pour le coup, il va sciemment aller se mesurer à Jodorowsky, mais enfin bon, t'as un peu l'impression de voir un Playmobil qui veut s'en prendre à Mohamed Ali, quoi. Et là, il dit, moi, il va faire un truc incroyable. Et c'est, mais...
T'as les actions.
Je me disais, bah, il n'y avait pas encore eu, quand même. Oh. C'est un film...
Ouais. Et vraiment, tu sors du film, tu fais, ah, caramba, encore raté. Et je trouve qu'il a... toujours, pas toujours, justement, pas toujours, il l'a pas toujours eu, mais qu'il a, depuis Birdman, une espèce de, d'autosatisfaction permanent et surtout de jugement systématique de tous ces personnages. Et finalement, en fait, je m'en fous un peu qu'il les aime ou qu'il les déteste, mais je n'aime pas cette espèce de jugement systématique en tous des personnages. C'est un truc qui me le rend très antipathique.
Ah bah, il a dit dans le vidéoclub que Arthur a mené et avec quand wow. même parlé de caca avec Iñárritu, hein, c'est quand même incroyable.
C'est lui qui en a parlé, c'est pas moi. Mais...
Oui, bah on espère.
Non, mais dedans, il dit que il vénère le travail d'Haneke sur la cruauté. C'est quand même un indice qui donne quand même des points à Simon, hein.
Ok, je déteste ce film.
Alors, à sa décharge, Iñárritu n'est pas tout seul, hein, malheureusement. Ouais.
Je suis pas du tout d'accord avec toi parce que je pense qu'il est pas du tout surplombant et qu'il touche pas ses personnages. Mais on a assez parlé. On va prendre les questions dans la salle. On a une question ici, tout de suite au premier rang. Bonsoir.
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 Merci beaucoup. En fait, j'ai pas de questions, j'ai juste envie d'être assise à table avec vous. Parce que vous avez dit tellement de trucs, j'avais envie de réagir, j'étais là, mais j'étais un peu trop loin. Vous avez donné tellement de refs où je voulais rebondir. Et vous avez parlé de Lars von Trier, donc évidemment, j'ai pensé à Dogville. Et je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas pris ce film. J'étais contente que vous n'ayez pas pris ce film. Moi, j'avais envie de parler avec toi du personnage d'Emma Stone.
Allez.
Avec Sophie.
Parce que, je suis actrice aussi. J'adore ce film. Parce que, en tant qu'acteur, on adore regarder des films qui se passent dans des théâtres. Et franchement, comparé à Dogville, on a envie de le regarder, le film. Et il se passe vraiment des choses. Et il se passe des choses extrêmement réaliste. Enfin, j'ai vécu à New York, j'ai vu Network avec Bryan Cranston, donc Breaking Bad. C'est exactement ça qu'on voit sur scène, c'est ça qui est mis en scène. J'étais sur scène, parce qu'on pouvait être sur scène pour regarder le spectacle. Enfin, il y a quelque chose quand même d'extrêmement réaliste pour avoir été dans des coulisses de théâtre à Broadway pour être actrice. Enfin, je joue pas des trucs que Michael Keaton joue, évidemment, mais... Pour ce côté-là, moi, je trouve justement que c'est réaliste et que c'est très premier degré. Et le personnage d'Emma Stone, parce que vous n'avez pas parlé de quelque chose de très intéressant qui s'appelle le male gaze, pour moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle est purement là pour servir les intérêts du personnage principal masculin.
Des deux.
Tous les personnages principaux masculins. Et c'est pas qu'Emma Stone ne joue pas bien ou que le texte est mal écrit, c'est que Iñárritu n'est pas capable de cacher que c'est très clairement un personnage secondaire.
C'est un personnage fonction.
Et c'est un personnage fonction. Et donc, pour moi, c'est ça qui me dérange. Vous avez pas vraiment parlé de cet aspect-là, du male gaze dans le film, mais c'est même pas du male gaze. Je me demande s'il fait exprès ou pas. C'est impossible de pas faire exprès à ce niveau-là. De cinéma.
Bah, c'est l'archétype de la maman et la putain, en fait. Littéralement, parce que l'autre personnage féminin, c'est une mère, ou en tout cas une femme bonne à marier, entre guillemets, pour reprendre une vieille expression dégueulasse.
Le truc des reproches, je trouve ça très réaliste, donc ça me dérange pas. Le truc de ah, tu crois que t'es si incroyable, nanani. Le monologue, toutes les actrices rêvent d'interpréter un truc comme ça. C'est cliché, mais c'est ok parce que c'est bien interprété. Mais c'est ce truc-là de bah, elle est vraiment là pour être le personnage secondaire. Et il pourrait quand même faire un effort pour le cacher un petit peu plus.
Je suis bien d'accord avec toi, c'est ce qui me gêne exactement avec le personnage d'Emma Stone. Tu vois, quand j'évoquais le côté caricatural, dans Yeux de poupée, sa romance très secondaire, en plus, elle ne participe pas à faire avancer l'intrigue de Michael Keaton. Elle est là pour être un espèce de miroir, et donc tu as raison, de male gaze, parce qu'elle n'est là que pour la caractérisation du personnage masculin, pour être un mauvais père. Et pourquoi c'est un mauvais père ? Parce que forcément, elle a échoué. Et je suis complètement d'accord avec toi. Le truc, c'est que comme c'est un film qui est majoritairement masculin, il impose un male gaze que je trouve plutôt discret, mais qui du coup prend encore plus d'ampleur sur les personnages féminins. Tu vois, comme c'est un film majoritairement masculin, ça prend d'un coup, ça pète hyper fort dès qu'il tente de filmer une nana, tu vois, genre n'importe qui, que ce soit Amy Ryan, ce que je trouve vraiment meilleur dans le film. Mais c'est vrai que, encore une fois, j'ai bien dit que la fin, je la trouve atroce parce qu'il y a un male gaze absolument un peu dégoûtant dedans.
Une autre question. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous remercier pour vos analyses. Moi, je suis clairement Nico et Arthur.
Yeah. On fera un petit sondage à la fin, voilà. On va voir.
Mais parce que, ça a été très bien, vous l'avez très bien expliqué, donc je ne vais pas en rajouter. Je voulais, moi aussi, revenir sur le personnage d'Emma Stone parce que, c'est vrai que c'est un personnage fonction, hein, on est d'accord là-dessus. Mais là où justement, moi je trouve qu'il est pas inutile, c'est que certes le personnage est obsédé par la trace qu'il va laisser, mais en fait le fait de faire de sa fille son assistante, l'oblige à la garder près de lui parce qu'il sent qu'il a merdé quelque chose quelque part, enfin même pour ainsi dire tout le temps visiblement. Et que là aussi, ça montre, ça permet aussi à nous de voir justement les séquelles de ce traitement qu'il fait sur sa fille. Et c'est en ça que, certes, je ne sais pas si c'est la direction d'acteur ou peut-être la manière dont il est écrit qui peut rendre ce personnage un peu agaçant, je peux le concéder. Mais en tout cas, pour moi, il était très important. Et un autre point, avant de vous laisser la parole, parce que je ne vais pas monopoliser le micro, je trouve aussi qu'il y a un point qui n'a pas été abordé, mais qui est relativement anecdotique, c'est qu'il y a aussi une mise en abîme dans la carrière de Keaton, ultérieurement, parce que deux ans après, il incarne un oiseau dans Spider-Man avec le rôle de Vulture.
Tu veux redire un mot, Arthur, rapidement sur le lien qu'il peut y avoir entre Keaton et Stone.
En fait, c'est vrai que moi je trouve que c'est peut-être une des grandes faiblesses du film, c'est l'écriture du personnage, pas son rôle, parce que je trouve que sa fonction est primordiale dans la caractérisation du personnage de Keaton. Je pense qu'effectivement elle aurait pu avoir plus de matière. Après, moi par rapport au male gaze ou autre, je me suis posé la question de manière très naïve si c'était pas aussi un peu pour illustrer la misogynie de cette industrie. Parce qu'il n'y a pas que elle qui est effectivement hyper objectivée. Hein. Enfin, la scène de Naomi Watts dans le lit sur scène, elle est horrible. Le comportement de Keaton avec le personnage de Andrea Riseborough, il est horrible. Enfin, toutes les femmes sont malheureusement, et elles sont peut-être pas beaucoup mises en valeur justement comme l'industrie le fait, mais pour moi, j'y voyais un peu une critique de ça. C'est peut-être un peu facile, c'est peut-être lui trouver un peu des raisons de pas donner plus de place aux femmes, mais je l'ai un peu interprété comme ça. Néanmoins, je suis d'accord, le fait de mettre sa fille proche de lui et en même temps, il n'arrive pas à communiquer avec elle, et quand il y arrive, c'est maladroit, et tout ce qu'elle lui balance dans la tronche, c'est effectivement des choses, je pense, qui sont nécessaires pour la caractérisation du personnage. Elle aurait pu avoir plus de matière. Là-dessus, moi, je pense que c'est le point pour lequel le point noir du film, c'est qu'elle aurait pu avoir beaucoup plus de matière.
Une nouvelle question, bonsoir.
Yes, bonsoir. Merci beaucoup déjà pour tout ça, ça me fait très plaisir d'être là. J'avais deux points, je vais essayer d'être rapide. Je ne suis pas très d'accord avec Simon, et c'est assez rare.
Et ça arrive à des gens très bien.
Ça arrive notamment à Éric Zemmour.
Ok, micro suivant. En fait, j'ai l'impression que quand tu parles du coup de la mise en scène et du plan séquence, ça devient une impasse, comme si le plan séquence faisait que on peut pas mettre de point de vue dans la vision de. Et je suis pas très d'accord avec ça parce que je trouve que dans le film, le plan séquence a un sens hyper concret par rapport à la vision du personnage principal. C'est que moi, la sensation que j'ai eue pendant tout le film, c'est une sensation de glissement d'une réalité à une autre. Le glissement de la scène vers les coulisses, puis les glissements du coulisses vers la ville, puis les glissements du personnage de Michael Keaton vers le glissement du personnage de Birdman. Et puis, il y a tout le long du film un glissement comme ça. Et je trouve que le plan séquence représente cette idée de glissement et d'interconnexion et de débordement de l'une vers l'autre, d'une réalité à l'autre, et je trouvais que ça avait carrément du sens.
Mais
c'était pas gratuit, quoi.
Il y a bien sûr des moments où ça fonctionne, il y a des moments où ça a du sens, il y a plein de scènes, tu vois, c'est pour ça que je rappelais dans mon propos liminaire que tout ça était virtuose, et ça l'est, mais je veux dire, mais indiscutablement, et pas seulement parce que c'est beau, parce qu'il y a bien des effets, que ce soit des effets de montée émotionnelle, des effets, tu l'as pas dit Nico, de vertige. Non mais bien sûr qu'il y a plein de moments où ça fonctionne, néanmoins il me semble que, pour le dire encore une fois, mais de manière très terre à terre, ça fait que je suis en permanence à côté des personnages, et jamais totalement avec eux.
Dedans, tu disais tout à l'heure.
Juste très rapidement,
pour,
petit
pour,
point.
Surtout pour laisser la parole.
Absolument, absolument. Et je voudrais parler aussi de la musique du film. Que je trouve,
on n'en a pas parlé.
Que je trouve incroyable. Je suis musicien et musicien de jazz, du coup forcément...
Antonio Sanchez, qui est le batteur, qui apparaît deux fois.
C'est pas lui qui apparaît dans le film. C'est Nate Smith qui apparaît dans le film. Mais c'est Antonio Sanchez... qui a enregistré et composé, enfin pas composé vu qu'il a improvisé, je sais pas s'il a vu le film ou pas pour l'improviser, et je trouvais que c'était aussi pour moi un personnage du film, la musique à part entière, et qu'elle suit la mise en scène de façon géniale, parce que les seuls moments où, bon, on nous fait pas croire qu'il a vraiment des pouvoirs, puisque à chaque fois il détruit ça derrière, on voit bien que ça se passe tout dans sa tête, mais la musique est présente tout le long du film, sauf les scènes où il devient un peu un super-héros, et où la musique change totalement, on vient sur de la musique
classique.
Composé, classique,
19e,
du malheur et tout ça, absolument. Et si vous avez quelque chose à dire par rapport
Moi
je précise juste pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film que la musique, ce sont des impros à la batterie de jazz et qui viennent scander quasiment tout le temps et qui sont effectivement quasiment un personnage qui a un angle mort de notre discussion pour le moment, mais on ne peut pas tout dire non plus, merde.
J'ai le même rapport à la musique qu'au film dans sa globalité. Je trouve la musique exceptionnelle. Enfin, je l'ai écoutée plusieurs fois, alors que pour écouter des impros de batterie seul, quand même, ce n'est pas toujours le truc le plus évident, quoi. mais si vous voulez faire le ménage ou bosser, c'est vraiment super. Mais la musique est extraordinaire. Je trouve qu'elle est, à mon sens, utilisée dans le film souvent, pas toujours, mais souvent un peu comme un surligneur, quoi. On en revient un peu toujours à ce truc chez Iñárritu de vouloir rajouter des couches et des couches et des couches de trucs qui étaient déjà quand même un peu évidents dès la couche numéro 2 ou 3, quoi. C'est un peu dommage.
Bonsoir.
Bonsoir. Je suis un peu émue et stressée. Je vais essayer de dire tout ça.
On est très gentil, on ne mord pas sauf Simon.
Ouais, sauf Simon.
J'ai pas été complètement d'accord avec vous quand vous avez parlé du début, tout début du film qui dit toute l'intrigue. Après, je ne connaissais pas le réalisateur, c'est le premier film que je vois de lui. Et en fait, quand j'ai vu le film au début, je me suis dit « Ah, c'est marrant, c'est un élément fantastique dans un décor réaliste. » Et c'est ce que j'ai pensé tout le long du film, jusqu'à la séquence où il se met en colère, il détruit tout. Puis on change de point de vue, on a un point de vue extérieur, et en fait, on se rend compte qu'il n'a pas de pouvoir. Et donc, cet élément scénaristique, ça m'a donné une autre tension dans le cinéma, notamment sa relation avec Norton. Où tout le long de... À chaque fois qu'il avait des embrouilles avec lui, je me dis « Ah mince, quand est-ce qu'il va péter un câble et lui faire du mal avec ses pouvoirs ?» Donc, je suis pas d'accord sur le fait que, dès le début, on sait qu'il a un trouble mental, pas du tout. Et c'est aussi pour ça que la fin, je l'ai trouvée assez ambiguë. Et donc, je comprenais plus le positionnement du réalisateur par rapport à cet élément scénaristique. Et j'avais aussi une autre question. Je trouve ça dommage que vous n'ayez pas parlé du rôle, du coup, de la critique qui revient trois fois dans le film et qui m'a fait penser à Babylone, où pareil, il y a une critique qui est très importante et du coup qui est pas traitée de la même façon. Où dans Babylone, en fait, c'est un peu un point de vue extérieur sur tout le monde, alors que dans ce film-là, en fait, on lui laisse pas la parole.
Qui veut réagir là-dessus, Simon ?
Disons que les années passant, on apprend qu'il faut toujours se méfier un peu, quand on est critique, de parler des critiques dans les films. Parce qu'on a très vite l'air de sale con et de dire genre, en tout cas, la manière dont la critique est traitée, c'est vraiment pas très bien. C'est pas très fort, on dit pas vraiment les trucs comme ça, on est beaucoup plus honnête. Ce que j'aurais fait si j'avais parlé de la critique dans le film, parce que vraiment, c'est pas très fin, c'est pas très honnête et on fait bien mieux que ça. Mais c'est pour ça qu'on a tendance à pas se précipiter là-dessus. Et je pense que quand bien même le film, il revient plusieurs fois symboliquement parce qu'il y a un lien avec le titre étendu du film, ça peut paraître un élément très important. Moi j'ai plus l'impression que c'est une petite je dis pas ça négativement en soi, que c'est une petite coquetterie quoi, que c'est un petit élément qui l'amuse, un petit élément de malice de sa part. Donc du coup c'est pas forcément là-dessus que j'ai envie de m'attarder, surtout que pour le coup, si je devais rentrer un peu dans les reproches, moi j'ai un peu de mal à évaluer, même si ça m'intéresse pas beaucoup. Est-ce que cette critique est abominable et horrible parce qu'on est dans la tête du personnage de Keaton, ou est-ce qu'elle est abominable et horrible parce que Iñárritu, à partir de ce film, ne se met à faire que des films de personnages persécutés, et notamment d'artistes persécutés? Est-ce qu'il s'imagine qu'il est un grand combattant devant une adversité incroyable, alors que c'est un type à qui les institutions disent des choses très gentilles depuis très longtemps? Donc voilà, j'ai du mal à déterminer ça. C'est pour ça que, comme je n'ai pas d'avis tranché sur la question, j'évite de trop y aller. Et sinon, la différence supplémentaire qu'il y a avec Babylone, mais qui est un très bon... très bien, très mal, c'est très pertinent de comparer les deux, c'est que dans Babylone, il y a l'inspiration d'une critique qui a véritablement existé et qui a été fondamentale à Hollywood. Là, c'est un personnage largement fantasmé.
Mais alors, je me demandais justement s'il n'y avait pas une critique réputée à New York qui aurait été l'incarnation d'eux. Mais on va pas prendre plus de questions pour le moment parce qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. On pourra en discuter après parce qu'on reste là et on pourra continuer et poursuivre la conversation de manière plus informelle. Parce que, ben voilà, on a encore une belle dizaine de minutes devant nous. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en 10 minutes ? Non, alors, Simon, non.
Baisse ce micro.
Pas ça. Pas ce à quoi tu penses, non. On va faire une manche de... Pas vu, pas pris. Eh oui. Alors, pour celles et ceux... Oui, vous pouvez y aller. On va s'humilier devant vous. Donc, vous pouvez y aller. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore notre grand jeu de l'été dernier, le principe est simple. Nous avons chacun mis dans un chapeau le titre d'un gros film, d'un film important, que nous n'avons pas vu, même s'il est possible que nous en ayons parlé, voire que nous l'ayons critiqué. Et pourtant, une main innocente a donc tiré l'un de ces cinq papiers. L'autre nom de ce jeu, c'est donc le jeu de la honte, puisque vous allez avoir 10 minutes pour trouver, pour deviner qui d'entre nous n'a pas vu le film qui va s'afficher derrière nous dans quelques instants. Il va falloir être assez rapide dans le passage de micro parce que vous allez voir, il y a un chronomètre. Ah oui, non, alors juste avant, qui est Team Sophie Alexis pour Birdman ? Team Sophie Alexis ?
C'est la moyen plus.
C'est moyen plus. Alors, Sophie et Alexis.
Nous deux.
Qui est, c'est moyen plus. Qui est team Nico Arthur ? C'est-à-dire, c'est super.
Ouais.
Et qui est team Simon ? C'est nulèche.
Vous êtes trois.
Oui.
Quatre.
Attends,
quatre.
Oui, bien.
Vous
bravo.
Êtes quatre.
Ouais, bah vous êtes surtout 15 à jamais avoir levé la main. Aucune question, là.
Bon, on va dire que c'est la team Sophie Alexis qui gagne à peu près à la louche. Mitigé. Mais bon, vite teuf. On concède.
Oui.
Allez. Allez, bref. On va passer à pas vu, pas pris. Vous êtes prêts ? Vous avez donc 10 minutes pour deviner qui d'entre nous ne l'a pas vu. Et on va lancer le chronomètre.
Et dévoiler le film.
Attention, on veut des réactions à l'annonce du film.
Boum ! 10 minutes, quelqu'un n'a pas vu le cinquième élément. Question, allez, une question à une personne, très vite. Il faut que ça tourne. Question, devant.
Ah, va falloir courir.
Une question, une personne, une question.
Simon, à un moment, il y a une marque de fast-food qui fait un caméo dans le film.
C'est laquelle ? Alors, je n'en ai... Mais alors, aucun souvenir. Attention, moi j'ai 38 ans, donc c'est pile ma génération. Je l'ai vu avec tous mes copains de 3e au cinéma, l'Eden Cinéma.
C'est pas la question qu'on t'a posée. Question suivante.
C'est quoi le cinquième élément pour Sophie ?
Allez!
Ça implique de spoiler le film, mais vas-y.
Ouh là là!
Putain, je réfléchis fort, parce que alors, je revois la scène du début avec les espèces de genre. Je peux vous dire où il est par contre. Parce qu'il est dans la cantatrice qui est jouée par Maïwenn, qu'on vient chercher en truc. Bah si! Mais c'est ça!
Question suivante!
Non.
Question suivante! Allez, vite, des questions, là. On a 10 minutes.
Les Mondo Chawan, c'est les gentils ou les méchants ?
À qui tu demandes ?
À Nico.
Les pardons ?
Les mauvais chats.
C'est les méchants, c'est les méchants.
Autre question.
Next question. Allez, dépêchez-vous, il faut que ça fasse ping-pong. Allez-y.
T'as vu, lui, il va les engueuler.
Oui, ça va les engueuler.
Alexis, comment s'appelle la carte d'identité utilisée par Lilou?
Je
peux prendre 30 secondes de votre temps ou pas? Parce que comme ça, je règle la question en ce qui me concerne. Le fast-food qui fait un caméo, c'est McDonald's. Les mondes d'Oshawan, si c'est les gros bombés, c'est les gentils. Et c'est le multipass.
Ah putain.
Je l'ai vu 25 fois quand j'étais gosse.
Il a tellement révisé.
Alors, question suivante.
Merci. Question pour Alexis. Oui. Quel est le rôle de Joker?
Quel est le rôle de Joker? Joker, tu peux me dire si c'est un acteur?
Attention, on a dit qu'on l'avait vu.
Le personnage, excuse-moi.
Le personnage de Joker, c'est le bras droit de Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, non, c'est pas ça?
Ok, très bien. C'est toi qui l'as pas vu.
On relance, c'est relancé. Vas-y, c'est question radical. Suivante. Allez-y. Quelqu'un a...
Vous êtes dur, hein?
Ah, et oui, on n'avait pas dit que c'était un peu sportif. Oui. C'est un peu sportif.
Alors, peut-être pour Simon... le dictionnaire à la fin, il s'arrête sur quel mot et pourquoi ça
Non mais les gars, je veux dire, à la fin, il y a le militaire débile qui regarde dans la capsule et il y a Bruce Willis qui est dans Emma, dans Mila Jovovich. Voilà, mais je peux pas vous dire le dictionnaire sur quoi il s'arrête. Et le cinquième élément, c'est l'amour.
Alors, je suis fascinée qu'on soit dans une salle qui connaisse le film aussi par cœur.
Non mais c'est dingue.
Je pense que ça a leaké en fait hier. Hein. Ta main innocente qui a tiré, elle a balancé sur les réseaux sociaux.
Non mais vous savez que c'est très mauvais quand même. Hein. Ça n'est pas question, bon du tout. Hein.
Question là-haut.
Alors, on quand a 7 minutes Bruce encore. Willis, il arrive dans sa chambre, il se prend une cigarette. Quelle est la particularité de cette cigarette?
Les proportions sont inversées. Il y a plus la partie normalement adjointe au filtre, c'est la partie fumable et le filtre, c'est les trois quarts de la clope.
Très bien.
Je l'ai vu le film, hein, mais continuez de douter de moi.
Hein. Vas-y, là juste devant, ici. Mesdames, n'hésitez pas aussi. Hein, vous laissez pas faire. Hein. On a plein de honte à revendre. Vas-y.
Question pour Arthur. C'est honteux de pas avoir vu le cinquième élément?
Alors, très bonne question.
Pour rappel, on ne shame jamais les gens qui n'ont pas vu les films. Hein, on
ça
est
dépend
pour que chacun construise sa culture et sa cinéphilie à son rythme.
Donc t'as pas honte?
J'ai pas honte puisque je l'ai vu. Et même si je l'avais pas vu, j'aurais pas honte. Mais non, c'est pas spécialement honteux. Disons que c'est un film de ma génération et de notre époque. Donc pour les gens plus jeunes, j'imagine que c'est pas du tout honteux de l'avoir vu. À mon âge, c'était difficile de passer à côté quand même.
Ah ouais, mais...
Moi je l'ai vu quand il repassait à la télé.
Ah bah oui, voilà, oui, parce que j'ai la télé.
Mais oui, parce que j'ai dit. Mais oui, moi je l'ai vu à 14 ans au cinéma, on a presque 42 ans d'écart donc.
Oui, c'est à peu près ça.
Et ouais.
Ouais, voilà. OK. Question suivante. Là-haut. Ah, il faut remonter les escaliers.
C'est sportif là.
Ouais, c'est hyper sportif.
Merci. Nicolas, tu peux nous raconter quand tu as vu le film, dans quel contexte et comment ça s'est passé?
Sans aucun problème. Alors pour le coup, c'est vraiment exactement ma génération, puisque comme vous le savez, je suis en 1876. et que après avoir vu l'entrée du train en gare de la Ciotat, qui était hyper cool, je me suis intéressé au cinéma. Je l'ai vu quand j'étais à la fac, je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu au Gaumont Elysia même, à l'époque, je peux te dire.
Nicolas, est-ce que tu es sûr que tu as vu le film?
Ah, j'en suis sûr et certain, oui. Pour travailler, je sais pas si vous savez, mais pendant 6 ans, j'ai travaillé à France Culture dans une émission qui s'appelait La méthode scientifique.
Alors,
la science-fiction.
Et tu peux nous rappeler les films que t'as pas vus cet été?
Et le film que j'ai rattrapé, oui, bah, c'est Métropolis. Métropolis, excusez-moi, j'étais mobilisé pendant la guerre. Je pouvais pas tout faire.
Et pour avoir été un invité régulier de l'émission, je peux témoigner qu'à France Culture, et particulièrement à la méthode scientifique, il y avait un travail de fond fait sur la carrière de Luc Besson.
Allez, question suivante.
Pour Sophie, est-ce que tu peux nous décrire l'animal de compagnie du méchant et aussi nous donner le nom de l'acteur qui joue le méchant?
Alors, il faut savoir que je suis nulle pour les noms, mais c'est Chris. Je sais que tout le monde doute de moi alors que j'ai les images en tête.
Mais c'est pas les images, c'est pas celle avec l'étoile de la mort. Hein. C'est pas la bonne image.
Décris l'animal de compagnie du méchant.
Mais je ne m'en souviens plus de l'animal de compagnie du méchant.
Le méchant, c'est Gary Oldman.
Bah oui.
T'as dit Chris.
Ah putain.
Voilà. Next. Là-haut, oui.
Je connais pas vos prénoms.
Alors, Jean-Claude, Philippe, Marie-Vonne.
Bon, Simone.
Bah, je vais demander à Arthur dans ce cas-là.
Okay.
Tout le monde va douter de moi, je suis triste, je suis mauvaise.
Aïe.
Comment il négocie Bruce Willis dans le film ?
J'en ai aucune idée.
Oh, c'est la plus connue.
Ah, j'en ai
What
aucune idée. Je n'ai pas revu le film. Moi, je n'ai pas revu le film depuis que j'ai genre 12 ou 13 ans. Je me souviens des taxis volants.
T'as pas dit 14 tout à l'heure ?
J'ai dit 12, 13, 14, ouais, c'est ça, quoi. Au collège.
J'ai dit 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18. À la louche.
Ne les écoutez pas, ils vont essayer de vous faire voter pour moi alors que je l'ai vu. Et que moi, j'avais mis un film bien plus honteux. Je me souviens très bien de plein de trucs, mais alors ça, absolument pas.
Alors, une question. Ouais, ici. Il reste 3 minutes.
Pour Arthur, parce que j'ai un gros doute, là. La cantatrice dont on parlait justement tout à l'heure, elle est rousse ou elle est blonde ?
La cantatrice, c'est pas celle qui est toute bleue, là ? Elle n'est pas en toute bleue ? Oui. Allez, t'as essayé de me piéger. Je vois ce que t'as essayé de faire.
Et elle est jouée par Maïwenn.
Mais je savais pas à l'époque que c'était elle. Tu vois,
question suivante.
Quelle est la ligne d'accroche de c'est Chris Tucker pour Sophie qui n'a pas vu le film ?
Les répliques, c'est compliqué. Non, mais...
Mais il est insupportable, son personnage. Ça, je m'en souviens.
Oui, par contre, je revois exactement là-bas son espèce de collerette un peu violette, un peu genre velours, qui est un super costume designé par Jean-Paul Gaultier, qui a aussi fait le costume de Lilou, blanc, en strap, qui est vraiment
film, hein,
repris notamment par Paloma en drag queen, parce que c'est une immense image de pop culture.
Allez,
je peux vous décrire.
Bravo, bravo, bravo.
Sauf que j'ai pas revu le film depuis mes 15 ans. Mais par contre, c'était un DVD que je regardais en boucle et je l'avais même en VHS que mon grand frère me montrait. Par contre, je ne l'ai jamais vu en salle.
Est-ce qu'on peut tous se dire qu'on a été assez fair-play et qu'on n'a pas revérifié des infos avant
de revenir
sur le film ?
Sauf Alexis.
Je peux même vous dire que hier, je me souvenais pas exactement du nom du personnage principal fait par Bruce Willis et je lui ai dit c'est.
Tu m'as dit Corben Wallace.
J'ai dit Corben Wallace
t'es pas
et
loin.
Pas Corben Dallas. Donc je tiens juste à dire que si, j'ai vu le film.
T'as pas de preuve de ça.
Question. Allez, 1,44.
C'est Nick. Question pour Arthur.
Tu penses que c'est lui ?
Question pour Arthur.
Oui.
Tu l'as noté combien sur Letterboxd ?
À mon avis, j'ai dû lui mettre 300 cœurs. Parce qu'il y a 3 avec cœur et 300 cœurs. Je crois que j'ai mis 300 cœurs, mais j'irai vérifier après.
100 cœurs comme Simon ?
Oui.
Ok.
Alors que c'est toi qui l'as pas vu.
Je commence à avoir des doutes sur Nico.
Mais il est trop content, il est présentateur. Il est ping-pong.
Question.
Mais tu sais, il l'a vu au Gaumont Alésia à la fac.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Allez, bon, question.
Une question pour toi, Nico.
Vas-y.
La scène de la cantatrice, quelle est la particularité du montage lors de cette scène ?
Quelle est la particularité ? Alors, ça, j'en ai.
Ça, je l'ai.
Aucune. Alors, je n'ai aucune idée de quoi tu parles.
Tu peux te sauver maintenant, je pense.
Vraiment, je
sais pas. C'est un montage alterné entre des séquences de baston et elle qui chante.
C'est ça.
Ah oui.
Bam ! Bam !
Ouais, okay, si vous m'autorisez, j'ai une question pour Arthur avant qu'on atteigne le décompte.
T'es un bâtard, c'est pas le.
C'est pas du tout. C'est pas réglementaire. Question. Allez, une dernière
après
question et on va voter.
Moi, j'ai une question pour Simon. C'est un anagramme de Luc Besson.
Gros con.
Environ quelques lettres.
C'était. Allez, on a le temps pour une dernière question.
Une seule.
Une seule. Une question, la question finale. Personne, mais sinon. Désolé, il faut courir. T'as mis une petite un petit conte avec une musique stressante.
Okay.
Vas-y.
Sophie, si tu l'as découvert au cinéma, c'était où ? Quelle
non.
salle ?
Quel non, je ne l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu, il m'a été montré par mon grand frère qui a 8 ans de plus que moi. Et d'abord, on l'a eu en VHS, puis en DVD. Parce que d'ailleurs, mes parents m'avaient offert un coffret Luc Besson, parce qu'à l'époque, il n'était pas cancel. Et il y avait Le Grand Bleu, Nikita, Subway et Le Cinquième Élément.
Oh, et j'ai prêté mon pull.
Et c'était Léon, le dernier film dans le coffret. Bon, eh bien.
Tu m'autorises à poser une question ?
Non, je t'autorise rien du tout. On va passer au vote.
Dictateur.
Non, non. On est réglo pour une fois. Nous, on se posera des questions.
Alexis,
on va s'humilier tout l'été.
Alexis, regarde-moi. C'est pas moi.
Allez.
C'est ça.
Votez. On va commencer à main levée, donc un vote vraiment très très précis.
Mais non, on va compter.
Oui, on va. Bah, vas-y, compte.
Bah, vas-y.
Qui vote pour Arthur ? C'est parti. Alors, vote pour Arthur.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11, ouais.
11. Qui vote pour Simon ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
c'est vraiment parce que vous m'aimez pas.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, je suis éliminé.
Qui vote pour Sophie ?
Allez, salaud.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ok.
Bravo. Qui vote pour Alexis ?
1, 2, 3, 4.
Mais il faut que je vous dise quoi, okay. En fait,
non, mais c'est bon, en fait, t'inquiète, les gens.
Contre ton tatouage,
les gens ont compris, c'était Nico.
Et qui vote pour moi ?
Wouah !
même pas besoin de compter. Allez, désolé pour les gens qui nous écoutent chez eux, mais alors là.
Eh bien, j'ai le malheur de vous dire que vous vous plantez le doigt dans l'œil jusqu'à la peau plate.
C'est pas toi.
Parce que je n'ai pas vu le cinquième élément.
Ah, bien sûr.
Parce qu'effectivement, à France Culture, on a bon goût et on ne peut pas être de science-fiction de Luc Besson de merde, bordel.
Alors, un jour, on va le regarder tous les deux. Mais, alors, moi, j'étais approximatif et tu vas passer une très bonne soirée.
Sophie, tu l'as vraiment vu?
Oui, mais des tonnes de fois.
Ah bon, putain, t'as vraiment une mémoire de chiotte, hein.
Et je prends un traitement un peu chelou en ce moment. Oh, c'est vrai, c'est vrai. J'ai un traitement qui me
Arthur, tu l'as vu aussi?
Un peu la mémoire.
Je l'ai vu gosse et je l'ai pas revu depuis. D'accord. J'en ai aucun souvenir.
C'est parce que t'oses pas mentir devant les gens.
Non, bah, ouais, non, je te jure.
On va boire des coups après. Il va tout.
Je te montre mon étendard après.
Il est l'heure. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à la ferme du Buisson. Vous avez été absolument super et on était ravis d'être ici avec vous. Encore une fois, on est dans les parages et on peut continuer à discuter un peu après. Si vous n'avez pas venu ici, si vous n'avez pas pu venir ici et que vous nous écoutez, notez bien que notre prochaine séance, et ça vaut pour vous aussi, en public, ce sera le lundi 6 mai. À 19h au cinéma L'Arlequin à Paris pour le crossover annuel Hurlequin réalisé sans trucage. Prenez vite vos places parce qu'elles partent à toute vitesse. On parlera d'un film pour lequel j'ai fait une charade dont je peux donner la réponse puisqu'il y a eu
les réponses. Oui, c'est bon, les gens les ont trouvées.
Allez, on parlera du Dracula de Coppola. Et d'ici là, on se retrouve vendredi pour l'épisode d'actualité. On parlera de Cowboy et de Cascadeur. Bye les amis et gloire
à Satan.
À Satan, ça marche aussi. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. À très bientôt.
Il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.